1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons voir comment le modèle centre-périphérie qu'on appelle champ urbain se traduit dans la distribution spatiale en ville des prix fonciers et immobiliers. Nous avons sur ce graphique une observation parmi beaucoup d'autres de ce qu'on appelle le gradient des prix fonciers, puisque ces prix décroissent régulièrement du centre vers la périphérie des villes, ici en abscisse, suivant une courbe assez régulière qui est une exponentielle négative, un peu comme la courbe de densité de population. Et c'était d'autant plus remarquable que cette courbe est établie ici sur une de nos villes plates, c'est-à-dire la ville de Sydney, qui est très étendue, très étalée, et qui ne devrait pas montrer autant de contraste si on l'examinait à la lumière de cette répartition de son habitat. En fait, on voit que les prix diminuent très rapidement dans les premiers miles à partir du centre. Nous avons donc bien un modèle de forme exponentielle et qui, en réalité, est encore plus affirmé pour les prix que pour les densités de population. La courbe bleue qui montre les densités de population présente un petit repli vers les localisations les plus centrales des densités de population. On appelle ça un cratère de densité parfois, parce que à proximité des centres, très souvent, les localisations les plus accessibles sont préférées par des activités très lucratives, des services, des banques, des compagnies d'assurance, qui, elles, peuvent occuper cet espace hautement convoité, des rares localisations centrales. Et vous voyez que la courbe des prix, elle, ne présente jamais ce cratère de densité, mais continue à monter régulièrement, exponentiellement, lorsque on s'approche du centre. Nous en avons ici un exemple. Les données sont anciennes puisqu'elles sont exprimées en francs, calculées donc par l'urbaniste américain Berthaud dans une publication de 2016 et qui nous montre, avec une qualité d'ajustement assez extraordinaire, un coefficient de détermination de 0,87, à quel point le modèle exponentielle représentée par la courbe en rouge des densités estimées, des prix estimés, correspond bien à la courbe bleue qui représente les prix observés. Alors, ce gradient de prix observé depuis longtemps a suscité toutes sortes de tentatives d'explication. La plus simple, c'était celle donnée par l'économiste Marshall, qui souhaitait différencier les prix urbains par rapport aux prix agricoles, donc en estimant qu'il y avait en quelque sorte une valeur ajoutée aux localisations urbaines par rapport aux prix de la terre agricole. Le sociologue Maurice Halbwachs y ajoute une valeur liée à l'opinion, donc à la représentation, ce que se font les urbains de la valeur de ces localisations en ville. Et c'est l'économiste Alonso qui, en 1964, donne une interprétation microéconomique d'un arbitrage par les ménages entre le prix du loyer plus élevé au centre, moins cher en périphérie, et le coût des transports entre les périphéries où, en général, on réside dans les villes américaines et les emplois qui sont situés au centre. En fait, nous avons ici un modèle analogue au modèle de rente foncière qu'avait établi von Thunen dès le début du 19e siècle à propos de la différence des utilisations du sol agricole autour d'une ville-marché. Ici, à l'intérieur de la ville, nous avons une rente par mètre carré estimée en fonction de la distance au centre, qui est beaucoup plus élevée donc au centre, là où se trouve le centre des affaires, le Central Business District, qui donc abouti à localiser dans cet espace très accessible les services capables de payer des loyers très élevés, les commerces et les résidences de luxe, puis une zone, une auréole qui correspond aux quartiers les plus aisés et aux services de niveau moyen. Et enfin, au fur et à mesure qu'on s'éloigne davantage du centre, on arrive dans les faubourgs et les banlieues où se localisent les résidences des personnes à revenus plus faibles, mais aussi désormais les activités industrielles et puis les encombrantes logistiques qui occupent des terres beaucoup plus accessibles financièrement. Nous avons une critique de ces modèles purement économiques de la différenciation des prix dans les villes par des sociologues qui font remarquer à quel point le marché du sol urbain est loin d'être parfait, d'abord parce qu'il s'agit de biens non substituables, ensuite parce que les acteurs qui sont entrés sur ce marché sont beaucoup moins nombreux, aussi parce qu'il y a des interventions de la puissance publique. Et donc, nous avons beaucoup de ces critiques qui ont été formulées dans les années 1960-70 par des gens comme Loschkin, Lipietz, Castells, Godard, Pretzel, pour ce qui concerne la France et donc les marchés. On parlait même de tribus fonciers urbains, tellement il y a là un problème sensible de relation entre les différentes catégories sociales. En fait, nous avons, par rapport à ce modèle général centre-périphérie, des variations de prix qui s'expliquent autrement, par exemple du fait d'aménités de sites, toujours présentes dans les villes, qu'il s'agisse de petites collines, de bords de rivières, de parcs, d'espaces verts. On sait que le niveau des prix, par exemple, se relève en bordure des cimetières, dans des grandes villes comme l'agglomération parisienne. Nous avons également des phénomènes de sélection des quartiers riches où s'opère la recherche d'un entre-soi qu'avait déjà bien entrevu Maurice Halbwachs et qui a été traduit par l'économiste américain Hoyt par l'idée d'un effet de secteur. On continue à chercher l'entre-soi du centre vers la périphérie en utilisant des moyens de transport rapide qui conservent le privilège d'une bonne accessibilité au centre tout en restant dans les beaux quartiers. Donc cette organisation, nous la voyons ici sur la carte des prix immobiliers à Paris avec des valeurs, évidemment, un modèle général centre-périphérie, des valeurs plus élevées au centre que dans les périphéries. Mais vous le voyez, tout un secteur riche qui s'organise depuis les arrondissements 7e, 16e et qui se poursuit en direction de Versailles et des communes aisées de la banlieue ouest. Tandis qu'au nord-est, nous avons au contraire un secteur de prix bas, donc bien une organisation des prix qui module en quelque sorte le modèle général centre-périphérie qui devrait être, s'il n'y avait que cette géométrie auréolaire, par une valeur sociologique d'entre-soi qui contribue à former ces secteurs. Ces prix dans les villes ne s'explique pas que localement par ces mécanismes internes à la ville. Nous avons des effets de mécanismes à d'autres échelles qui traduisent la concurrence entre les grandes villes, par exemple pour les villes mondiales. On sait que plus elles sont attractives et plus les prix y sont élevés. Les villes les plus chères du monde, c'est New York, Londres, Tokyo et Paris en fait partie. Et puis, aux échelles locales, si on zoome sur les aménités, on va également trouver, outre les petits accidents de relief dont je parlais tout à l'heure, des effets de localisation des écoles, de certains équipements qui vont donner plus de valeur, toutes choses égales quant aux qualités d'un logement, à certaines localisations qu'à d'autres. Évidemment, les accès aux transports sont également des sources de renchérissement des prix. Nous avons ici une carte dressée par Julie Fenchong des variations de prix entre les villes françaises. Paris domine largement par ses prix très élevés, mais aussi, vous le voyez en jaune, les métropoles, les grandes métropoles ont tendance à avoir des prix plus élevés que les petites villes. Et entre Paris et ses métropoles, nous avons des valeurs très élevées également dans certaines villes touristiques. Vous reconnaissez la localisation de Nice sans problème, les villes touristiques attractives pour des populations extérieures ou populations résidentes qui donc contribuent à renchérir les prix. Et nous pouvons dégager à l'échelle de l'Europe encore un autre niveau, un modèle centre-périphérie entre les villes les plus chères qui sont localisées dans les zones, dans les plus grandes villes et les zones les plus denses de la dorsale européenne, donc en position centrale depuis Londres en suivant la vallée du Rhin jusqu'en Italie du Nord. Et en revanche, les périphéries, que ce soit du côté de l'Espagne, de la Grèce ou même de l'Allemagne, ont des prix immobiliers beaucoup plus modérés. Donc, avec cet exemple, nous montrons en quelque sorte le nerf de la guerre du champ urbain qui réside dans ces fortes variations de prix qui sont à la fois entraînées et qui entraînent celles des densités de population.